collège, oui, comme réforme du collège qui aura animé considérablement la vie politique en 2015. Réforme du collège et réforme des programmes qui auront été allègrement mélangés jusqu'à créer finalement une assez grande confusion. Alors, pour en débattre avec nous dans ce studio, les deux spécialistes éducation de France Info, Célia Quiret, bonjour.
Bonjour.
Et puis vous, Emmanuel Davidenkopf, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes également rédacteur en chef au Monde. Alors, réforme du collège, réforme des programmes, est-ce que finalement ça n'a pas été ça qui a rendu peut-être le dossier un peu incompréhensible? Célia Quiret.
Alors effectivement, on se rappelle que ces deux réformes ont été présentées en même temps et c'était assez logique de la part du gouvernement puisque la réforme du collège c'est l'ossature, c'est les cases à remplir, l'organisation des cours, et la réforme des programmes c'est ce qu'on met à l'intérieur, c'est le contenu de ce que les élèves vont apprendre à partir de 2016. Sauf que dans la réforme des programmes, il y avait les programmes d'histoire. Et vous vous souvenez que la droite, certains députés ont critiqué ces programmes d'histoire puisqu'ils étaient allégés et donc certains aspects étaient mis de façon optionnelle. On se souvient du siècle des Lumières. Et du coup, effectivement, la droite s'est emparée de cette opposition à la réforme. On a eu l'impression
finalement...
C'est juste
politique pour vous ? C'était juste une question politique ?
Je ne sais pas si c'est juste une question politique, mais je crois que Célia met le doigt sur un point fondamental du débat. C'est effectivement que je pense que la gauche ne s'attendait pas que la droite s'empare de ce dossier et qu'elle arrive avec un angle idéologique. Elle aurait pu s'y attendre, puisque la droite s'en prend à l'école sur le terrain des valeurs, sur le terrain de l'identité. C'est aussi un terrain qu'elle va labourer dans les mois qui vont suivre à l'orée des élections. Mais elle le fait sur le terrain de l'école. Et je pense que ça vient énormément compliquer le débat. Ils s'attendent probablement sur cette question des programmes, c'est pareil pour les langues anciennes, ils s'attendent probablement à ce qu'il y ait un débat, quelques articles dans les pages opinion des journaux, quelques plateaux,
du Monde,
par exemple. Quelques plateaux un peu éruptifs, par exemple sur France Info, mais à la limite que ça va s'arrêter là. Et non, toute la machine et du combat idéologique se met en branle.
Et effectivement, toute la gauche était d'autant plus surprise que la droite est pour la réforme du collège, qui elle prévoit plus d'autonomie pour les établissements. Une marge de 20% sera donnée aux principaux de collège pour organiser un petit peu les cours différemment. Ça, la droite est pour, elle l'a toujours dit. Donc la gauche était d'autant plus surprise pour cette raison-là.
Emmanuel Davidenkopf, Célia disait que c'était logique de les deux réformes, mais est-ce que finalement c'était très habile de la part de Najat Vallaud-Belkacem?
Je ne sais pas si c'était très habile, c'est la deuxième fois que sur une réforme importante sous cette mandature, on a une confusion de dossiers. Rappelez-vous, quand Vincent Peillon arrive, il veut refonder l'école, il organise des assises dès le mois de juillet 2012, ça vient très vite, mais ça cogne avec la réforme des rythmes scolaires. Et dans les mois qui suivent, très 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 rapidement, quand on parle de la réforme Peillon, au fond on ne sait pas si on parle de la réforme des rythmes ou si on parle de la refondation de l'école. Donc à minima, en termes de communication et d'entraînement des troupes, il y a une erreur. Et à mon sens, on retrouve absolument la même. En revanche, et là Célia a parfaitement raison, la grande nouveauté de cette réforme du collège, qui est quand même le dossier auquel personne ne s'est attaqué résolument depuis 1975, donc c'est pas rien, la grande nouveauté, c'est que le gouvernement essaye de faire une réforme globale. Vous savez, en matière d'éducation, quand vous tirez un fil, généralement, tout le système vient, vous interrogez tout. Et donc, ils se disent, si on se contente de réformer sur un point, ça ne marchera pas, il faut s'attaquer à tout à la fois. Peut-être que là, on a eu l'illustration du dicton selon lequel qui trop embrasse mal étreint, mais il y avait de toute façon une alternative qui avait ses inconvénients de part et d'autre. Ils ont pris le risque d'attaquer globalement, ça faisait sens en même temps par rapport à l'esprit de cette réforme.
Et finalement, les choses ont été rétablies puisque les programmes ont été rechangés. Ils ont été présentés à nouveau en septembre et finalement, le siècle des Lumières n'est plus en option mais redevient obligatoire. Donc, il n'y a plus de polémique sur les programmes. Et pendant ce temps, la réforme du collège, elle n'a pas bougé d'un iota. Donc finalement, la gauche a réussi son pari de ce point de vue-là.
Cette réforme du collège, on a l'impression que le collège est un peu le maillon faible de notre système éducatif. C'est ce qu'on dit généralement. Est-ce qu'on a raison de dire cela, Emmanuel Davidenkopf ?
À mon sens, on a tout à fait raison de le dire pour plusieurs raisons. La première, c'est que la mission du collège n'a jamais été tranchée depuis 1975 et le collège unique. Et ça remonte quasiment à la fin du 19e siècle dans l'histoire de l'éducation, à savoir ce fameux cycle intermédiaire, au fond, mais qui clôt la scolarité obligatoire. Est-ce que c'est une prolongation de l'école primaire ? Ce qui a des conséquences en termes de pédagogie, ce qui a des conséquences en termes d'absence de sélection. Vous n'avez pas de débat à l'école primaire entre le CE1 et le CE2, est-ce qu'il faut un palier d'orientation? Vous avez ce débat au collège sur est-ce qu'après tout il faudrait
On ne sait pas à quoi sert le collège finalement.
On ne sait pas exactement à quoi sert, ou est-ce que c'est le petit lycée? Et dans le temps, vous étiez scolarisé au collège, mais également en primaire, dans des lycées. C'est là encore un héritage du 19e siècle, ce qui entraîne également une conséquence pédagogique, et c'est plutôt le choix qui a été fait, avec un découpage disciplinaire, un professeur par discipline, peu de communication entre les disciplines, et surtout un objectif de sélection, alors de présélection, mais tout de même un objectif de sélection. Et donc on ne sait pas si c'est l'école de tous, l'école pour tous, ou si c'est une première gare de tri, une première zone de triage, de distillat pour
c'est
les élèves.
Vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Je ne sais pas si on peut dire que le collège est réellement le maillon faible. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que la France est la championne des inégalités, et que ces inégalités-là, non seulement elles se créent à l'école primaire, mais elles se cristallisent au collège. Quand on regarde les études PISA, le niveau des élèves de 15 ans, donc en 3e, en français et en maths, est exactement dans la moyenne des pays de l'OCDE. Donc on n'a pas de difficulté. En revanche, les mauvais élèves sont plus mauvais qu'ailleurs. Et les inégalités entre les très bons, qui sont encore meilleurs qu'ailleurs, et les très mauvais, sont très grandes. C'est ça le problème du collège en France. Donc parler de maillon faible, on peut parler du maillon faible. La réalité, c'est qu'il faut s'attaquer à ce problème-là des inégalités.
Bon,
c'est
mais la réforme s'attaquait à ce problème-là. Est-ce qu'elle tranchait finalement entre ces deux collèges que Emmanuel Davydenkoff nous décrivait, soit petit lycée, soit école fondamentale?
Je crois que dans l'esprit, elle tranche. Ensuite, il faut voir si sur le terrain, elle va réellement trancher, parce qu'il y a quand même une opposition farouche d'un certain nombre d'enseignants. Alors minoritaire, la grande question de 2016-2017, ça va être de savoir à quel point les opposants à cette réforme, sur le terrain, vont réussir à déstabiliser la mise en œuvre de la réforme. Et ça s'est déjà vu en matière d'éducation. Mais sinon, elle tranche. L'interdisciplinarité, effectivement, la souplesse donnée aux établissements, l'idée que chaque élève doit maîtriser un socle commun de connaissances et de compétences qui était déjà dans la loi depuis longtemps, mais qui va trouver une nouvelle expression. A priori, le gouvernement a tranché, et il tranche dans un sens, Célia Kyré le rappelait, c'est très important, sur lequel il peut y avoir consensus avec toute une partie de la droite.
Alors effectivement, on verra comment elle sera appliquée, on le verra tout à l'heure dans le débat, mais elle tranche dans la mesure où elle crée plus d'accompagnement individualisé pour les élèves. Aujourd'hui, ils en ont un petit peu en sixième, là ils en auront 3 heures par semaine, ce qui est beaucoup, et elle crée aussi de l'accompagnement à tous les niveaux. Donc le motif de base de cette réforme, c'est justement de s'attaquer aux inégalités. Après, effectivement, vu l'opposition du monde enseignant aujourd'hui, on n'est pas certain que cette réforme s'applique de façon très positive.
Bon, alors elle doit donc entrer en vigueur en septembre prochain. Ça va bien se passer selon vous ?
Non, moi je pense que ça ne va pas bien se passer, si je peux me permettre. Dans la mesure où, aujourd'hui les enseignants sont censés être formés à cette réforme, mais ils refusent leur formation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les professeurs sont convoqués pour des formations, certains refusent d'y aller. Et ceux qui y vont essentiellement pour regarder comment ça se passe et pour compter les points. Donc non, on ne peut pas dire que cette réforme va bien s'appliquer dans un premier temps. Dans un second temps, peut-être. Mais dans un premier, on imagine très bien une réforme appliquée à géométrie variable, selon le bon vouloir à la fois des principaux de collège et des enseignants.
Ce qui revient à décrire le fonctionnement du système éducatif français, c'est-à-dire qu'on voit bien comment, avec les mêmes moyens, les mêmes programmes, la même formation des enseignants, vous avez des situations extrêmement disparates, sans que rien ne distingue sur le papier, si on prend des indicateurs statistiques un peu objectivables, la situation de tel ou tel établissement. Et ça risque effectivement de se produire de cette façon-là. On a déjà vu des réformes être appliquées après avoir subi une opposition farouche, ce fut le cas des travaux personnels encadrés, les enseignants étaient vent debout, c'était un petit peu la même idée que d'ailleurs dans les enseignements interdisciplinaires qu'on met au collège aujourd'hui, c'est-à-dire de faire dialoguer les disciplines. Quand vous faites un texte qui a trait à la révolution industrielle, je sais pas, du Dickens, en cours d'anglais, que le professeur d'histoire songe à vous dire que ça a un impact sur le cours d'histoire. Quand les TPE ont été non pas supprimés, mais amoindris, les mêmes enseignants qui s'étaient opposés à leur création se sont mis à refuser. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 2-3 ans qui étaient passés et que sur le terrain, finalement, le travail s'était fait. Là, la grosse difficulté, c'est que cette réforme, elle est globale, elle touche à beaucoup de points et pas seulement
et
un
donc,
point.
Et justement, elle touche à tellement de points qu'il y a quand même des choses qui vont être appliquées à la rentrée prochaine. C'est par exemple la langue vivante 2 dès la 5e. Ça, c'est sûr que tous les élèves auront une langue vivante 2 dès la 5e en septembre.
Et donc, on va continuer évidemment à suivre la mise en application de cette réforme avec vous deux, Célia Kyré, et vous, Emmanuel Davydenkoff. Vous êtes tous les deux les spécialistes éducation à France Info. Et puis vous, en plus, Emmanuel Davydenkoff, vous êtes rédacteur en chef au Monde. Les mots de l'info, c'est sur France Info et c'est aussi sur franceinfo.fr.